Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Surmonter et réussir son divorce, sa séparation. Aujourd'hui, je vous propose un regard peut-être un peu dérangeant, mais qui me paraît essentiel. Et si votre divorce ou votre séparation vous avait rendu complètement accro au conflit? Pas comme des amoureux de la dispute, bien sûr, mais dépendant d'un cycle cérébral qui entretient la colère, comme d'autres deviennent dépendants à la nicotine ou au scroll infini sur son téléphone portable. Accro, oui. Oh non, pas parce que vous aimez souffrir, mais parce qu'un mécanisme très humain a transformé la bataille en habitude de récompense. Comprendre ce processus, c'est la première étape pour le désamorcer. Alors ensemble aujourd'hui, au travers de l'exemple de Florence, nous allons comprendre le mécanisme qui se met en place et qui transforme la colère en habitude. Et puis nous décoderons vos quatre moteurs invisibles et leur carburant pour reconnaître enfin les signes d'alerte dans la vraie vie et découvrir les trois leviers pour sortir du chaos. Je suis Sandrine Mercy, coach divorce professionnelle et certifiée, auteure, conférencière et fondatrice des Journées du divorce et de la séparation. Je souhaite devenir ici votre voix inspirante, authentique et compatissante pour sortir des ennuis et remplir ma mission, vous aider à quitter la douleur, reprendre le contrôle de votre vie et bâtir un après qui soit solide avec empathie et expertise. Imaginez la vie de Florence. À 3h17 du matin, elle saute du lit car, eureka, elle a trouvé LA réplique au dernier SMS. Et plutôt que de passer une nuit paisible ou de noter sur un carnet pour retourner dans les bras de Morphée, elle s'empresse de saisir son téléphone portable et d'adresser à son ex sa dernière trouvaille. Et bien sûr, de l'envoyer. À 6h30, dès le réveil, Florence se jette sur son téléphone portable pour savoir si elle a enfin reçu une réponse à cette merveilleuse punchline de la nuit. Au petit-déj, sa fille lui parle de son contrôle d'anglais. Elle n'entend que le mot « contrôle ». Immédiatement, son cerveau se met en mode cogitation et lui amène cette idée du contrôle. Et Florence fait ce choix « je ne vais pas me laisser contrôler ». Et cette réflexion va rester et l'animer pendant les jours qui vont suivre. Mais pendant ce temps-là, l'attention que demandait sa fille ne sera pas satisfaite. À 14h, son chef propose un nouveau dossier qui est vraiment passionnant. Mais une petite voix chez Florence lui dit « Non, pas maintenant, j'ai une autre affaire à suivre. » 21h08, le téléphone est toujours muet. Pas de message, pas de réponse. Un immense sentiment de vide s'installe. Elle espérait tellement ce SMS, même agressif, pour pouvoir ressentir quelque chose. Et puis, le samedi suivant, Florence participera à un barbecue entre amis. À peine 3 minutes après son arrivée, des petites discussions se mettent en place et Florence va déballer le dernier épisode du conflit. Les regards se figent, mais Florence est incapable de les voir. Si cet exemple de Florence vous parle, c'est probablement parce que votre cerveau est aussi accro à cette boucle colère-récompense. Observons maintenant pourquoi un simple texto va lancer une bataille internationale. En fait, vous êtes équipé de 4 moteurs inconscients qui se mettent en marche dans ce type de situation et qui vont produire 4 carburants. Le premier moteur est le déclencheur. Votre cerveau est équipé pour vous signaler un danger, vous le savez certainement. Le système d'alerte du danger se met en marche lorsque vous recevez par exemple une notification ou quand un souvenir réapparaît en lien avec l'histoire. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il s'agit ici de l'amygdale du cerveau qui, une fois le danger signalé, libérera une dose d'adrénaline pour vous aider à faire face. Votre cerveau est également équipé d'un capteur de douleur. C'est le deuxième moteur qui s'appelle l'insula. Son rôle est donc de capter les sensations internes comme le rythme cardiaque, les nœuds à l'estomac, et de vous faire réagir au rejet, à l'exclusion, à l'injustice. De vous signaler ce qui est moralement inacceptable en déclenchant un mélange de dégoût et de colère comme préparation à la riposte et pour au final donner le feu vert ou le feu rouge pour les décisions risquées à prendre. Donc dans des situations de stress, l'insula est le moteur qui préférera envoyer une réaction immédiate. Et c'est là que vous développez des longs pavés par email ou par SMS, plutôt que de se mettre en stand-by, en position d'attente, pour définir une stratégie sur du long terme. Donc la colère donne l'impulsion. Puis on tient à prouver que l'on a raison pour entretenir les niveaux de décharge d'adrénaline. Pour vous donner un exemple concret, vous recevez un SMS qui vous parle d'une facture ou encore de frais autour des enfants. L'insula, votre capteur de douleur sociale, décode immédiatement injustice, rejet, attaque morale. Et donc elle envoie un cocktail colère, dégoût, qui va vous faire serrer la mâchoire, vous nouer l'estomac. Et sous ce stress, l'insula veut une riposte rapide. Et donc elle va privilégier un long message incendiaire plutôt qu'un plan stratégique. Voilà pourquoi, en une seule seconde, la logique cède la place à l'impulsion. Puis votre cerveau adore pouvoir dire, tu vois, j'avais bien raison. Pour ceux et celles qui veulent le détail, c'est la zone qui se trouve juste derrière votre front, le cortex préfrontal médian. C'est votre troisième moteur. Celui-ci, il orchestre la manœuvre. Vos souvenirs, les mails, les réseaux sociaux qui sont parcourus. Et ce moteur s'emploie à surligner tout ce qui prouve que vous êtes la partie blessée. Les phases neutres, elles restent en gris. Résultat, chaque preuve ravive l'adrénaline, alimente la colère et prépare la riposte. Dans les profondeurs de votre cerveau se loge un département ou un service, si vous préférez, qui ne s'occupe que de la partie récompense versus soulagement. À peine votre esprit imagine la réponse parfaite, que cette petite zone va libérer une goutte de dopamine, une hormone du bonheur. Autrement dit, votre cerveau vous paye d'avance pour un succès qui n'existe pas encore. Et c'est ce mini-shoot qui vous pousse à taper sur le clavier sans attendre, persuadé qu'après, ça ira beaucoup mieux. Ce quatrième moteur, toujours ceux que ça intéresse, qui s'appelle le striatum ventral, est là comme la promesse de la victoire. Dit autrement, si vous répondez vivement et surtout rapidement, vous libérez de la dopamine qui vous apportera un mini soulagement. Alors passons désormais au carburant. Le premier des carburants est ce que l'on appelle le biais de confirmation. Celui-ci s'active dans plusieurs zones de votre cerveau. Ce carburant va procéder à une sélection très minutieuse des mots, des gestes, des captures d'écran qui nourrissent le récit ou votre histoire et qui vous donnent une petite récompense dès qu'un indice renforce votre scénario. Sans rentrer cette fois-ci dans les détails, une partie de votre cerveau baisse le volume d'effets dérangeants et une autre guide votre projecteur d'attention pour ne voir que ce que vous voulez voir à un instant précis. Ce carburant alimente différents moteurs afin de vous protéger en vous faisant admettre que l'autre est coupable et vous contraindre à ne pas revoir votre propre rôle. Ainsi, votre cerveau économise cette énergie dont vous manquez tant dans cette période difficile. Et puis, ça vous permet aussi de gérer la charge émotionnelle élevée, comme la colère, l'injustice et la peur qui s'enflamme. Sous stress, on traite l'info plus vite, mais beaucoup moins finement. Et enfin, il vous permet de répondre à un besoin de cohérence. Le divorce bouleverse votre histoire personnelle. Confirmer que l'autre est le tyran stabilise le récit et apaise, en tous les cas, momentanément, l'anxiété. Dit autrement, le biais de confirmation sont vos lunettes qui ne voient qu'une couleur et qui soulignent uniquement les preuves que vous avez raison. Il réduit votre vision du monde et justifie la prochaine attaque. Il surligne chaque mot, chaque geste qui prouve que l'autre est fautive. Les phrases calmes deviennent complètement invisibles. La ligne irritante clignote en rouge et en permanence. Et résultat, plus vous lisez, plus vous découvrez des nouvelles preuves et plus la colère semble justifiée. Et pour vous, c'est beaucoup plus confortable. Le deuxième carburant, c'est la colère. C'est l'émotion qui crie « Stop ! Frontière franchie !» Elle donne un coup d'élan formidable. Votre rythme cardiaque grimpe, vos muscles se gonflent d'énergie, mais le hic, en phase de séparation, la colère s'enclenche pour tout, un mot mal prononcé, une minute de retard, une ligne sur une facture de cantine, tout peut devenir objet de colère. En fait, sur le moment, chaque bouffée de colère va vous faire sentir puissant et puis vous épuise. Et surtout, elle vous prépare pour la prochaine bouffée parce que la colère est un carburant qui est hautement inflammable. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez besoin pour ressentir quelque chose. La colère, c'est vraiment cette émotion pernicieuse, car elle ne demande qu'une seule chose si on ne s'en débarrasse pas, c'est d'être nourri pour croître. Et donc, à ce moment de votre histoire, tout est bon pour la nourrir et lui permettre de se développer. Le troisième carburant, c'est la peine non digérée. Sous la colère, il y a ce chagrin qui est silencieux, ou la faim du nous, ou la peur de la solitude, ou ce sentiment d'échec que vous expérimentez. Tant que cette peine n'est pas accueillie, votre inconscient tente de récupérer une monnaie d'échange. Du temps de l'autre, de l'attention, de l'argent. Le conflit devient alors un analgésique. Tant que je me bats, je n'ai pas à ressentir le vide. Mais comme toute anesthésie, l'effet s'estompe vite et le besoin de rallumer la bataille revient. Le conflit devient donc un substitut à votre guérison. Pour vous donner un exemple plus concret ou pour résumer, le téléphone vibre ou votre sonnerie de téléphone se déclenche. C'est l'amygdale qui appuie sur le bouton rouge. Attention danger! En un éclair, elle inonde tout votre corps d'adrénaline et vous bascule en mode combat ou fuite. Et puis, le mot argent, le mot charge, il vient vous mordre. L'insula traduit ça comme un sentiment d'injustice, comme une brûlure. Et la colère et la tristesse se lèvent dans le même bloc. Plus question de réfléchir à ce moment-là. Il faut juste réagir. Et le cerveau chausse ses lunettes fluo. Le cortex préfrontal médian active le biais de confirmation. Il surligne tout ce qui prouve que l'autre vous attaque et gomme le reste. Votre récit se bétonne et vous déterminez que vous êtes la cible. La victoire imaginée fait miroiter son sucre rapide. Dans l'ombre, le striatum ventral promet un mini soulagement. Réponds vite, tu te sentiras beaucoup mieux. Et hop, il vous envoie une petite giclée de dopamine qui valide la tentation. En un clic, vous avez envoyé votre message, vous pouvez lâcher un soupir de soulagement et rester bouche bouclée. Le répit ne va durer cependant que quelques minutes, jusqu'à la prochaine notification qui rallumera le cycle exactement là où il s'est arrêté. Alors pourquoi devient-on inconsciemment addict au conflit? Pourquoi le conflit devient-il si vite une drogue, une addiction? Reprenons l'exemple concret de Florence qui me disait, et je veux vraiment bien la croire, rêver de paix et de tranquillité. Elle rentre du travail vers 18h. Son ex réclame les affaires de danse. Disons qu'il est 18h07 quand elle reçoit ce SMS. À 18h09, Florence riposte avec un SMS coup de poing. Il s'est passé à peine 2 minutes pour que l'amygdale lève l'alerte et que le striatum promette un mini soulagement avec sa délivrance de dopamine. C'est plus rapide qu'un jogging et qu'un appel à une amie. Le cerveau enregistre solution express. Et puis, pour Florence, certains soirs, il n'y a pas de notification, il n'y a pas de message. Mais quand même, Florence reste en alerte, parce qu'elle ne sait jamais quand ça va tomber. Cette incertitude accentue la libération de dopamine. Et c'est encore le rôle du striatum qui adore la récompense imprévisible. Alors elle consulte sans cesse son téléphone, au cas où. Et puis, le mécanisme devient de plus en plus fréquent, au point, même parfois, de provoquer des situations, on est bien d'accord, de manière inconsciente, de manière à ce qu'il y ait des réponses et qu'il y ait des messages qui sont envoyés et qu'il y ait des notifications à apparaître pour pouvoir y répondre et recevoir cette dose de bien-être via la dopamine. Et puis pendant qu'elle rédige sa réponse, elle se sent énergisée, le cœur rapide, les idées claires, l'impression d'être vive, en fait l'impression d'être vivante. L'adrénaline est le turbo physiologique, la dopamine, la promesse de victoire. Et ensemble, ils donnent cette illusion de vitalité. Et puis, il y aura le vide, laissé par l'absence de ces carburants. Et pour retrouver ce peps, il faudra une nouvelle joute. À chaque clash, Florence raconte à ses proches qu'elle protège ses droits. Depuis le début de la séparation, Florence se voit et se présente comme celle qui se bat pour ses droits. C'est le biais de confirmation qui nourrit son récit. Arrêter la dispute, ce serait perdre ce rôle. Elle se demanderait « Mais si je ne suis plus la combattante, qui suis-je ?» Et ce flou intérieur est effrayant. Alors instinctivement, elle relance la bataille pour garder une identité claire qui est connue et qui est familière. Et par le simple fait d'avoir besoin d'avoir raison, elle reconfirme l'ensemble de ce processus. Et puis, lorsque Florence n'a pas ses enfants et qu'elle a des soirées libres, ces moments sont encore plus flous, plus vides. Les changements liés à l'absence de ses enfants sont trop violents. Les habitudes ne sont plus là. Et sans source de joie concrète, le conflit reste l'unique activité génératrice d'intensité émotionnelle. Tant qu'aucun autre projet positif n'occupe cette place, la bataille garde le monopole. Chaque échange musclé confirme le rôle de justicier ou de martyr que l'on s'est attribué. Plus ce rôle est répété, plus il devient confortable, presque rassurant. Et abandonner le conflit signifierait quitter un costume que l'on porte depuis des mois, et c'est vertigineux. Ce mécanisme se met en place pour renforcer votre identité. Puis disons aussi que dans les premiers temps de la séparation, comme on vient de le voir pour Florence, il y a très peu de sources de joie qui sont disponibles. Les routines ont explosé, les finances sont tendues, les amis peuvent être partagés. Le conflit reste donc la seule activité qui procure encore du sens et une montée physiologique palpable. Sans nouveau projet, sans nouveau rituel de récompense sain, le conflit garde le monopole. Et en résumé, pour Florence, elle ne recherche pas consciemment la dispute. Elle cherche un cocktail rapide de soulagement, d'énergie et de validation identitaire. Et c'est ce que lui fournit le conflit, jusqu'à la prochaine notification. L'addiction vient donc réellement de l'enclenchement du cerveau en quatre temps qui libère vos carburants addictifs. L'amygdale lance l'adrénaline, l'insula transforme l'alerte en colère, le cortex préfrontal médian empile les preuves que l'autre vous attaque, puis le striatum ventral, avide de soulagement, libère une mini-dose de dopamine dès que vous répliquez. Ce couple stress-micro-récompense devient si efficace que quand la prochaine notification tarde, quand l'attente vous met trop en haleine, quand il ne se passe rien, vous relancez le conflit pour récupérer votre petite bouffée de dopamine temporaire dont vous avez tant besoin en cette période. Voilà pourquoi la bataille finit par ressembler à cette addiction. La guerre connue rassure plus que la paix que votre cerveau n'a pas encore appris à savourer. Voilà pourquoi ce simple texto suffit à lancer la bataille en vous mettant en alerte, développant la colère, cherchant des preuves à charge pour au final pouvoir vous fournir, par la réponse que vous enverrez par votre téléphone, un mini soulagement de dopamine. Et la boucle recommence. Et tant que ce circuit reste votre seule source d'énergie rapide, la guerre vous rassure car elle vous plonge avec l'autre dans ce que vous connaissez, alors que la paix, l'apaisement, vous enlise dans l'inconnu et vous fait peur. Et c'est aussi pour cette raison que les rétablissements dans un divorce comme dans une séparation sont très longs. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode numéro 1, « Comment le temps agit sur mon divorce ou ma séparation ». Je pense que cet épisode est déjà très long et peut-être un petit peu technique. Alors je vous propose que nous quittions les coulisses de votre cerveau pour le moment, pour passer dans le prochain épisode à la surface de votre quotidien. Vous découvrirez les signes d'alerte qui montrent que la boucle dirige déjà vos soirées, vos enfants, votre travail, en fait dirige votre vie, conduit votre vie, et les trois leviers concrets pour couper l'alimentation du conflit et remettre votre attention au service de votre futur. À très vite pour la sortie du manège.